Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Ternier.
Aujourd'hui, nous fêtons les 170 ans du timbre-poste. Ensuite, on va essayer des lunettes avec des montures en pierre fabriquées en Loire-Atlantique. Et puis, on va savourer des cocos de Paimpol, célèbres haricots bretons.
Histoire d'affranchissement, de lunettes made in France et de légumineuses. Donc, ce sera après la sécheresse qui sévit en France. Une spécialiste des risques est avec nous car la situation devient très sérieuse.
Mais on commence tout de suite avec l'info de ce mardi 17 septembre. C'est avec Simon de Faucompré. Bonjour Simon.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
La France ne sera pas votre terrain de jeu.
L'avertissement de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, aux trafiquants de drogue ce midi à Marseille. Entouré de trois ministres, il y a présenté un plan anti-stupéfiant de 55 mesures.
Et parmi elles, la création d'un nouveau système pour lutter contre le trafic.
L'OFAST, oui, pour Office Anti-Stupéfiant. Alors un office de ce genre existait déjà depuis 50 ans, mais le ministre l'assure, on est loin du simple changement de nom et coup de peinture, on l'écoute.
L'OFAST sera le chef de file unique de la lutte contre les trafics de drogue. Il sera doté de 150 enquêteurs. Il mènera des investigations sous l'autorité des magistrats et coordonnera l'action de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les stupéfiants, au niveau national comme au niveau local. Il possédera 16 antennes territoriales en métropole comme dans les Outre-mer, pour agir sur le terrain et se fonder sur les renseignements de terrain. L'OFAST sera également le lieu du travail en commun. Police, gendarmerie, douane et magistrats. C'est un sujet de confiance. En 66 ans, tout a changé. Le trafic s'est industrialisé, il s'est mondialisé. Les méthodes des trafiquants aussi ont changé. Plus violentes, plus perfectionnées, moins traçables. Tout a changé donc, sauf notre organisation. J'ai la conviction que nous devons franchir une nouvelle étape dans notre lutte contre les trafics de stupéfiants.
Et cette OFAST, donc, Office Anti-Stupéfiant, doit être opérationnelle au 1er janvier 2020.
Et ce plan a d'autres grands axes de travail.
Oui, il doit notamment prévoir de plus fortes sanctions contre les trafiquants, comme les éloigner des quartiers sensibles. Au menu également un volet préventif pour casser l'image, je cite Christophe Castaner, « festive de la drogue ». Évacuation d'ampleur d'un camp de migrants à Grande-Synthe, près de Dunkerque ce matin. Près d'un millier de personnes prises en charge par les forces de l'ordre pour être mises à l'abri dans des centres d'hébergement d'urgence.
Oui, un dispositif qui est loin de convaincre les associations d'aide aux migrants sur place.
Oui, elles craignent qu'ils reviennent rapidement et reconstituent un camp en vue, d'après certains bénévoles, de gagner le Royaume-Uni. Tout ça au lendemain d'un durcissement affiché d'Emmanuel Macron sur l'immigration. Entouré hier soir de 200 parlementaires en marche, il les a invités à regarder le sujet en face et à ne pas le laisser à d'autres partis. Un discours jugé ce matin opportuniste et déjà électoral pour certains membres de la droite et de l'extrême droite.
Peine aménagée pour le gendarme ayant tué un couple de retraités en Isère.
Il a été placé sous bracelet électronique, c'est France Bleu Isère qui le dit ce matin. 7 mois après avoir percuté le couple en voiture ivre, il lui est resté 11 mois de prison ferme. Le plein d'essence risque de faire mal prochainement. Et oui, plus mal que d'habitude. On le sait, depuis hier, le cours du pétrole brut a explosé de 15% après des attaques sur des sites saoudiens ce week-end.
Une hausse jamais vue depuis 30 ans.
Alors forcément, nous on est en bout de fil, on a peur que le prix du carburant explose. On parle de 4, 5 centimes par litre. Pas de panique pour Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport a voulu relativiser les choses ce matin.
Il a bondi à un niveau qui reste sensiblement le niveau de mai dernier, 66 $ environ le prix du baril de brut. Je rappelle qu'à la même époque l'année dernière, le prix était autour de 86 $. Donc il faut certes regarder ce sujet de façon extrêmement vigilante, mais il ne faut pas non plus créer ce vent de panique. Puis nous sommes évidemment vigilants dans l'information que nous avons à faire aux consommateurs. Nous appelons les pétroliers à la modération sur l'augmentation des prix. Il y a des comparateurs de prix qui permettent aux usagers de se renseigner.
Le carburant, cheval de bataille, on s'en souvient, des Gilets jaunes.
Et oui, c'était la première revendication historique du mouvement. Un collectif proche des Gilets jaunes demande aujourd'hui un gel immédiat du prix de l'essence. Il a lancé également une pétition pour récolter des soutiens.
La sécheresse persiste en France.
86 départements sont actuellement concernés par des restrictions d'eau et 209 arrêtés sont en cours dans le pays. Le manque de pluie, il devient inquiétant, d'autant que ça fait plusieurs mois que ça dure.
Ouais, EDF envisage de baisser sa production dans des centrales nucléaires pour cause de manque d'eau dans les fleuves. La canicule est passée par là et le beau temps est toujours là. Une hydrologue spécialiste en adaptation au changement climatique sera avec nous dans un instant.
plus 7 degrés d'ici à 2100 sur la planète. On est loin de la limite de 2 degrés qu'on essaye de respecter pour limiter le réchauffement climatique.
Et c'est le pire des scénarios envisagés par une centaine de chercheurs français aujourd'hui.
Oui, alors attention, restons un petit peu optimistes. Rester sous les 2 degrés reste encore possible, à condition que le monde entier se coordonne dans les prochaines années. Plus de 1000 décès, 3000 nouveaux cas de cancer de col de l'utérus l'an dernier. Santé publique France alerte sur ces chiffres aujourd'hui et rappelle l'importance du dépistage et de la vaccination.
Et notamment chez nous, car moins de 60% des Françaises se font dépister.
Un article est à lire sur francebleu.fr. La Cour suprême britannique se penche aujourd'hui sur la suspension du Parlement.
Oui, mesure controversée obtenue par le Premier ministre Boris Johnson.
Ses opposants l'accusent de vouloir enrayer les débats autour du Brexit, comme d'habitude, pour le faire passer en force et sans accord avant le 31 octobre. Et on ne va pas souhaiter bonne chance à nos trois clubs en lice français, en lice pour Ligue des Champions. Bah oui, paraît que ça porte malheur.
Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? On peut croiser les doigts, non?
On va croiser les doigts sous la table quand même. Le cœur y est pour Lyon qui ouvre le bal à 18h55 contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Lille retrouve les pelouses européennes après 7 ans. Ce soir, 21h contre Amsterdam. Et Paris se lance demain contre
vous
le Real Madrid.
Vous pouvez décroiser les doigts, Frédéric.
Non, c'est bon.
Je vous sens fébrile pour nos clubs français.
Tous les jours, ça va terminer avec du foot.
C'est ça. Mais c'est ma petite dédicace.
Mais c'est normal. Mais je décroche un petit peu avant.
Il y aura du volet demain.
Ah, très bien. Un pronostic pour la Ligue des Champions.
Non, on en parlera demain.
On arrête.
Merci beaucoup, Simon. Je plaisante, évidemment. Bon après-midi à vous.
À vous aussi.
À demain. Au revoir.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez. Où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Soisic Bourg.
Avec cet accident dans le sud-ouest de Paris sur la 10, direction à la province à hauteur de Massy. Accident impliquant une moto, vous ne circulez plus que sur une seule voie. Il y a un quart d'heure de bouchon en amont depuis Vissou du Monde. Il y en a aussi sur le périph' extérieur entre Issy-les-Moulineaux et la porte de Bercy. Comptez 20 minutes de ralentissement. Vous êtes aussi le pied sur le frein sur l'autoroute A1 entre la Courneuve et la porte de la Chapelle. Là, vous en avez pour un petit quart d'heure. Sur la 86 intérieure en Seine-Saint-Denis, là vous êtes ralenti entre Rosny-sous-Bois et Nogent-sur-Marne.
Voilà la météo, Frédéric Le Tournier.
Des éclaircies vont se développer au nord de la Seine cet après-midi, mais le ciel reste encore assez gris de la Bretagne à la Normandie. Au sud, le temps est estival et le soleil s'impose généreusement. Il pourrait y avoir des petites averses orageuses sur les Pyrénées, le sud du Massif central. Les températures à Rouen, il fait 21 degrés, à Metz 22, à Nantes 25, à Lyon 30 et à Nîmes, j'en irai jusqu'à 35 degrés cet après-midi. Et je vous le disais, il fait beau et même chaud par endroits. On va encore atteindre 30 degrés dans le sud-est, le sud-ouest et le centre aujourd'hui. La sécheresse devient donc très inquiétante.
Oui, pour se rendre compte de cette situation et chercher des pistes pour l'avenir, une hydrologue est avec nous, spécialiste en adaptation face au changement climatique. Bonjour Emma Aziza.
Bonjour.
Des restrictions d'eau dans 86 départements désormais. EDF qui envisage de baisser sa production nucléaire, on peut dire que ça devient un moment critique.
Effectivement, on se rend bien compte qu'il y a une emprise en fait à l'échelle sociétale, puisque tous les niveaux sont considérés et vont être atteints, que ce soit l'agriculture, que ce soit les maisons individuelles qui vont subir aussi ces retraits gonflements d'argile, donc qui subissent des dégâts. On le voit au niveau des centrales nucléaires ou encore effectivement les ouvrages hydroélectriques gérés par EDF, donc c'est vraiment global.
En ce qui concerne la météo, en général, on n'a pas beaucoup de mémoire. Est-ce qu'on a déjà connu ce genre de situation aussi critique dans le passé ?
Alors, on a déjà connu des grandes sécheresses, effectivement, dans un passé plus lointain. Et puis, plus récemment, on se rappelle de la sécheresse de 1976. La grande différence, pour vous donner un chiffre clé, oui, c'est qu'en juin 1976, on avait atteint 36 degrés. Cette année, en juin 2019, on a atteint 46 degrés, donc 10 degrés d'écart. On avait des signatures différentes en termes de sécheresse. 1976 avait commencé l'année précédente. Là, on a plongé depuis le printemps dans un état de sécheresse sévère liée aux canicules qui n'ont fait qu'aggraver le problème.
Oui, ce n'est pas rassurant ce que vous dites. Alors, en attendant la pluie, beaucoup de pluie, il en faudrait même énormément pour réalimenter les nappes phréatiques. Vous faites, vous, des préconisations pour économiser l'eau. Par exemple, généraliser l'eau de pluie à l'échelle de l'ensemble de la France. Pour cela, il faudrait des aides financières.
Alors c'est ça, c'est-à-dire que ça coûte de toutes les façons beaucoup moins cher de prévenir que de guérir. Donc on en est certain, les politiques de prévention fonctionnent à condition qu'on incite les populations, les entreprises à vraiment conduire, se conduire vers des comportements différents. Donc effectivement, récupérer l'eau de pluie dans toutes les maisons individuelles pour des effets d'arrosage, etc., doit être privilégié, mais les gens ne vont pas aller systématiquement acheter un récupérateur d'eau. Par contre, s'il y a des incitations financières, économiques, ils auront plus tendance à aller le faire, à mettre des mousseurs sur leur robinet. On peut parler aussi des solutions qui existent dans les entreprises. Ce qui est certain, c'est que toute cette eau qui ne sera pas consommée dans l'adduction en eau potable, dans le réseau global à l'échelle d'une collectivité, ça va permettre de ne pas soutirer plus la nappe et donc de ne pas mettre de pression supplémentaire et de risquer d'arriver dans des solutions comme on le vit actuellement avec des camions citernes qui alimentent des villes.
Vous avez parlé rapidement des mousseurs. Expliquez-nous ce que sont les mousseurs. On pourrait tous avoir un mousseur sur notre robinet.
Et il faudrait même le mettre de manière systématique sur tous les robinets qu'on puisse acheter aujourd'hui. C'est simplement le fait de réduire le débit par deux avec une eau qui va être, si vous voulez, distillée de manière beaucoup plus aérienne. Mais finalement, le débit est deux fois moins important. Donc quand on ouvre son robinet, on consomme deux fois moins d'eau naturellement.
Oui, parce que vous dites par ailleurs, la consommation de l'eau est plutôt raisonnable en France. Ce sont les débits qu'il faut changer.
C'est-à-dire que les plus grands consommateurs d'eau restent quand même l'agriculture. Donc, il y a une vraie question à se poser aujourd'hui sur la manière dont ils utilisent l'eau. Et je pense qu'il va falloir très, très vite s'inspirer des solutions qui existent dans les pays qui manquent régulièrement d'eau, parce que c'est là-bas qu'on va pouvoir s'inspirer pour changer nos pratiques agricoles. Donc, effectivement, mettre en place de la micro-irrigation, c'est une forme de goutte à goutte, en fait, qui va permettre d'être une solution innovante pour les grandes cultures. Et ça économise 20% d'eau. C'est beaucoup plus intéressant que de mettre des retenues collinaires qui vont donner le sentiment qu'on a toujours un peu plus d'eau. Donc finalement, cette eau qu'on retient, on la consommera aussi. Vous voyez, c'est un petit peu changer nos pratiques, changer les mentalités. Et ça marche à toutes les échelles. Ce qui est sûr, c'est que les plus grands consommateurs d'eau vont devoir se poser des vraies questions. Et ce serait dommage de mettre des politiques de communication, si vous voulez, uniquement ciblées sur les populations qui, derrière, sont souvent culpabilisantes et finalement n'ont pas d'effet.
Eh bien, on a fait de la pédagogie grâce à vous aujourd'hui. Merci Emma Aziza.
Merci beaucoup.
Emma Aziza, hydrologue spécialiste en adaptation face au changement climatique.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier.
Et aujourd'hui, nous poursuivons avec un anniversaire, les 170 ans du timbre-poste. Et c'est l'occasion de passer en revue tous ces changements.
Oui, ces différents tarifs aussi qui ont augmenté. Bon anniversaire le timbre, si vous nous entendez, collé sur l'enveloppe là-haut, en haut à droite.
Et puis on s'essaye aux lunettes avec monture en pierre, réalisées par deux opticiens de Loire-Atlantique.
Ce sont des spécialistes de lunettes en bois qui s'essaient aux lunettes en pierre.
Eh oui, ça serait pas mal ça pour rouler avec ce titre. Ramjam, Black Beauty, avec les lunettes en pierre. Et on terminera avec une spécialité bretonne qui nous régale absolument, c'est le coco de Paimpol.
On a trouvé des recettes dans Cuisine Evan France. Vous avez testé, Frédéric, les cocos de Paimpol en salade avec une compotée de tomates.
Mais arrêtez, vous me donnez faim à chaque fois. Là, il est 13h13, on n'a pas mangé. Une heure en France, ensemble, c'est bien sûr jusqu'à 14h et on accélère. Hein. Black Beauty et Ramjam sur France Bleu. À tout de suite. We'll be right back. Et ça se termine avec un coup de cymbale, Ramjam et Blackberry sur France Bleu.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Le timbre poste français fête ses 170 ans cette année. Nous nous demandions si le timbre était né en France, alors pas tout à fait. Et c'est le moment de vous raconter son histoire et de vérifier s'il a encore un avenir.
La naissance du timbre est liée à une histoire d'amour. C'est quand même plus romantique qu'une histoire de facture.
Vous l'avez dit. Et on fait appel à un docteur en histoire. C'est l'historien de la Poste qui est avec nous. Bonjour Sébastien Richez.
Bonjour.
Alors où est né le timbre et de quelle façon ?
Ah, le timbre poste est matériellement né en Angleterre, en 1839, grâce au directeur général de la poste anglaise, qui se montre très impulsif, et qui décide de lancer son administration dans cette aventure. Mais conceptuellement, dans les esprits, le timbre est né au XVIIe siècle, à la fois en France et en Angleterre, puisqu'il symbolisait le port payé. Et qu'entend-on par port payé ? C'est-à-dire le fait, pour les correspondants, de payer le port de la lettre
celui qui reçoit.
L'expéditeur, par l'expéditeur et non plus par le destinataire,
oui,
comme c'était l'usage avant. Et puis, cette notion va disparaître avec...
Attendez, je vous arrête Sébastien Richez, parce que Denis, nous avons vu une histoire d'amour.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu l'apparition du timbre ?
Écoutez, je suis pas suffisamment féru et spécialiste d'histoire du timbre pour le lier immédiatement à cette histoire d'amour. Ce qu'on peut dire, c'est que le timbre a d'abord une motivation fiscale et financière, ça c'est sûr.
Oui, parce qu'en fait, on va raconter quand même, parce que sinon ça paraît pas très clair.
Écoutez,
cette affaire.
C'est ce que l'on a lu, mais il va falloir vérifier maintenant. Un facteur qui apporte une lettre à une servante, qui la prend, la servante examine l'enveloppe et la rend au facteur en refusant de payer le port de la missive, et là... Il y a un témoin qui, à côté, alors est-ce que c'était le receveur général, je ne sais pas, qui se dit il faut créer un système inverse.
Oui, parce qu'en fait, elle recevait la lettre, mais elle ne voulait pas la payer, mais c'était juste le moyen de savoir que son amant, son amoureux, allait bien.
Ouais. Voilà. Vous avez eu vent de cette histoire, Sébastien Richez, ou on l'a totalement inventée?
Non, tout à fait. Ça fait partie des quelques écrits sur les livres généraux qui parlent des mythes constitutifs des évolutions de la poste. Mais vous mettez le point et vous mettez le doigt sur l'affaire première, c'est-à-dire qu'à l'époque, on était en capacité de refuser une lettre que le coût du transport de la lettre était trop élevé pour le destinataire. Donc l'idée, ça va être d'inverser la notion et de faire payer l'expéditeur.
Et au départ, alors, il y avait quelle figure sur ce terme ? C'était Napoléon en France ?
Ah, pas du tout, non, c'était la déesse des moissons et de l'agriculture, Cérès, qui sert à matérialiser le symbole républicain à cette époque. Il faut savoir qu'en France, on prend le parti d'utiliser le timbre comme un des éléments constitutifs de la République, au même titre que Marianne, du drapeau tricolore ou des mairies, et que le timbre va incarner des éléments... évidemment allégorique de la République. Alors la justice, la semeuse, la liberté, ou encore le messager Mercure, ou même la messagère Iris, messagère des dieux, qui vont être les illustrations faciales des timbres officiels de la République française.
Et c'est la Poste donc qui décide d'émettre un timbre sur la résistance, sur le droit de vote des femmes. J'en ai vu un sur le palais du facteur cheval dont on a parlé ici. C'est la Poste qui décide ?
Tout à fait, ces timbres font partie du programme officiel, piloté donc par la Poste, mais sous l'égide évidemment des institutions républicaines et de l'autorité de tutelle, le ministère. Et puis il y a un programme moins officiel depuis quelques années, qui est laissé libre cours aux créateurs de la Poste, qui sur tel ou tel type de sujet décident de créer une émission ou une collection spécifique en fonction des appétences des collectionneurs et du public. Mais
alors,
très officiellement, oui, c'est une démarche très républicaine. Oui.
Ce sont souvent des fiertés de notre patrimoine. Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus que d'autres, à vous, par exemple, Sébastien Richez, si vous deviez garder comme ça en mémoire un ou deux timbres qui vous a marqué ?
Si vous faites une collection.
Alors non, je ne suis pas philatéliste et le sujet du timbre est pour moi un objet d'histoire en tant qu'historien de la Poste, mais pas expert de l'histoire de l'art ou des représentations du timbre, mais si je devais en évoquer une très contemporaine, très récente dans mon esprit, c'est la dernière Marianne que le président Macron a choisie et qui est pour moi une évocation à la fois splendide de la place de la femme dans la société et de la République. Je pense que c'est vraiment, en plus d'être une création artistique incroyable, une évocation magnifique.
Alors il y a la Marianne timbre rouge, la Marianne timbre vert, mais si on cherche un peu à la Poste, il y a des Marianne grises, mauves, jaunes, bruns, bistres.
Violet, non, aussi.
C'est un brun jaunâtre, orange. C'est pour des compléments d'affranchissement. Violet, j'ai pas vu.
Tout à fait, oui. Vous avez toute une déclinaison d'un ensemble tarifaire à travers les timbres qui permet de composer le tarif exact de l'expédition que vous choisissez au moment de cette expédition. Donc le panel de tarification est très important, et évidemment le sujet du timbre-poste dans la société française est un véritable marronnier, hein, qu'on voit refleurir dans la presse régulièrement à chaque évolution tarifaire. C'est quelque chose qui tient en haleine la société française depuis le milieu du 19e siècle, cette question.
Alors, Sébastien Richez, il y a une autre date importante, c'est quand est-ce qu'ils sont devenus autocollants, parce qu'avant il fallait lécher comme ça le timbre.
Mais vous n'avez pas connu cette période.
Il était collé, pas vraiment droit. Si, je l'ai connu en plus. C'est quoi, dans les années 90 qu'il est devenu autocollant?
Oui, tout à fait. C'est avant la fin du XXe siècle. La Poste va avoir un processus de modernisation technologique. Va inventer le timbre autocollant. Va inventer le timbre rond pour la Coupe du Monde de football en 98 en France. Va inventer le timbre ovale pour la Coupe du Monde de rugby qu'elle accueillera un peu plus tard. Et elle décline même un timbre Saint-Valentin depuis plus d'une dizaine d'années, auquel elle associe régulièrement les grands noms du luxe français qui sont à tour de rôle chargés de créer un objet à la fois vintage et de collection que les collectionneurs s'arrachent littéralement.
Évidemment.
Alors, 170 ans, Sébastien Richez, vous pensez que le timbre a vraiment un avenir à l'heure où l'on écrit de moins en moins quand même?
C'est une question sensible. Je crois que le timbre va vivre ce que le point de croix, le crochet peuvent connaître dans des pays comme les États-Unis ou le Japon. C'est-à-dire que ça va devenir un marqueur social, d'usage social pour des publics peut-être un peu aisés mais culturellement un peu élevés, qui vont avoir cette démarche à travers d'un objet qui correspond quand même à tout un processus de patrimonialisation pour énormément de paysages, de lieux historiques, de personnages de notre histoire, et qui vont y avoir recours pour tel ou tel type de correspondance. Donc je pense pas que le timbre en tant que tel soit menacé à court ou moyen terme. Je pense qu'il va endosser d'autres usages,
un peu plus élitiste,
artistiques, et de relations interpersonnelles pour marquer un certain type d'échange.
Ouais, et puis une déclaration d'amour, ça se fait pas par email, on est bien d'accord.
Nous sommes tout à fait d'accord.
Merci beaucoup Sébastien Richez, c'était passionnant ce passage en revue des moments marquants du timbre poste, et on lui souhaite quand même longue vie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée, au revoir. Et on joue, nous, pour une montre France Bleu Sport qu'on vous enverra par la poste avec plein de timbres sur l'enveloppe. Dites-nous quel est le timbre le moins cher des deux. Est-ce que c'est la Marianne verte ou la Marianne rouge?
Ah, j'ai cru que vous alliez demander le tarif parce que c'est pas facile.
Non, c'est pas
marqué
évident.
Sur le timbre.
Je l'ai, mais je vous le dirai en réponse. Alors, lequel des deux est le moins cher? La Marianne verte ou la Marianne rouge? Si vous avez la bonne réponse, vous nous appelez 0810 055 056. Et puis, vous restez avec nous. On va s'intéresser à l'invention de deux opticiens en Loire-Atlantique. Les lunettes montures en pierre, ça c'est pas banal. Et à 13h45, on saura tout sur le coco de Paimpol, ce célèbre haricot breton.
Ça c'est bien coco.
Et on poursuit en musique avec une nouveauté, c'est Maëlle et on l'adore. Toutes les machines, paraît-il, ont un cœur.
Toutes les machines ont un cœur, t'entends. Toutes les machines ont un cœur dedans. Qui bat, qui bat, qui bat, comme on se bat. Keep bats comme je me bats, maman. Si le monde est mon mobile, mon cœur pour le moment est comme le monde, maman. Et le monde est fragile. Et le monde est fragile. Et mon cœur est fragile.
Elle s'appelle Maëlle, toutes les machines ont un cœur. Une chanson écrite et composée par Calogero et Zazie Pamal.
Même les machines à laver?
Ah, je sais pas, on va en vérifier, promis Tony. Véronique est là, bonjour Véronique.
Bonjour.
Vous allez bien Véronique?
Ça va bien, avec un beau temps.
Vous êtes où, du coup?
À côté de Châteauroux, dans le Berry.
Ah, très bien, on voit bien. Et vous êtes quoi, en pause déjeuner là Véronique?
Non, pas du tout, j'étais sur le chemin pour reprendre le travail.
Ah, et vous faites quoi dans la vie?
Je suis adjoint administratif.
D'accord, donc on vous garde quelques instants, simplement le temps de répondre à cette question. Et quel est le timbre le moins cher des deux, la Marianne verte ou la Marianne rouge?
La Marianne verte.
Oui, vous connaissez le prix?
Alors, 88 pour la rouge, je crois.
Ouais.
Non, c'est l'inverse.
Le contraire. Ah, c'est l'inverse alors. Donc la verte, c'est 88.
88 pour la verte et 1,05€ pour la rouge.
Ah d'accord.
Donc vous n'avez pas votre cadeau.
Mais si, mais vous êtes horrible, il est horrible.
Pour une prochaine fois.
Mais non, c'est pas vrai, Véronique, on vous l'envoie évidemment, la montre France
Bleu. Je suis même à côté de la ville de Saint-Valentin, et qui donc la Poste fait un timbre spécial Saint-Valentin, je ne sais pas si vous le connaissez.
Ah ben nous en a parlé notre invité il y a quelques instants, donc voilà, vous confirmez, c'est un beau timbre.
Ah oui, et Saint-Valentin est tout près de Châteauroux.
Oh, c'est bien ça pour les amoureux.
Voilà.
Véronique, on vous envoie la montre, on vous fait une grosse bise au passage et bon courage pour le travail cet après-midi.
Merci beaucoup, à vous aussi.
À bientôt. Au revoir. France Bleu.
Bonjour, je suis Yvonne, psychologue. Et bonne, évidemment, vous souhaitez consulter pour explorer les méandres de vos tourments.
Vous êtes les auditeurs de France Bleu. Vous avez de la chance, car pour vous, c'est gratuit.
Et c'est sûr.
Les Chevaliers du Fiel à la radio, c'est uniquement sur France Bleu et francebleu.fr.
Radio France, partenaire des Journées Européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre. Le ministère de la Culture vous invite à cette 36e édition placée sous le thème « Art et divertissement ». Châteaux, lieux de pouvoir et édifices religieux, cinéma, théâtre ou piscine, partout en France, plus de 17 000 monuments vous ouvrent leurs portes les 21 et 22 septembre. À cette occasion, rendez-vous également à la Maison de la Radio à Paris. Concerts gratuits, visites guidées, cinéma sonore, expositions, renseignements sur radiofrance.fr.
francebleu.fr. Tout France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Soisic Bourg.
Avec du monde sur la 86 intérieure de Rosny-sous-Bois à Nogent-sur-Marne, vous perdez 20 minutes. Il y a une voiture en panne à hauteur de Nogent et un accident également un peu avant le tunnel. Une voie est fermée sur la droite. Sur la 10, attention à cet accident au niveau de Champlan. Vous ne circulez plus que sur une seule voie. Comptez 10 minutes de ralentissement en amont depuis Vissou. Toujours du monde aussi pour rentrer dans Paris depuis la 1 et Saint-Denis. Comptez 10 minutes de bouchon. Et puis sur le périph' intérieur, du côté de la porte d'Auteuil jusqu'à celle de la Muette, c'est compliqué. Et puis dans les transports en commun, attention, la ligne J du Transilien est coupée entre Argenteuil et Conflans-Sainte-Honorine jusqu'à 14h.
Il suffirait simplement qu'il m'appelle, qu'il m'appelle. D'où vient ma vie? Certainement pas du ciel. Lui raconter mon enfance, son absence, tous les jours. Comment briser le silence qui l'entoure? Aussi vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout seul à faire maison.
Je vous dirai simplement qu'à part ça, tout va bien. À part d'un père, je ne manque de rien. Je vis dans un autre monde. Je m'accroche tous les jours. Je briserai le silence qui m'entoure. Aussi vrai que de loin je vibre, j'apprends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser, si seulement je pourrais lui manquer. Est-ce qu'il va me faire un signe? Manquer d'un père n'est pas un crime. J'ai qu'une prière à lui adresser.
Alors non seulement il écrit pour les autres, on a entendu il y a quelques minutes l'excellent titre de Maël.
On parlait souvent de lui.
Oui, Toutes les machines ont un cœur, c'est lui qui l'a composé. Et là c'est lui qui chantait, évidemment vous l'avez reconnu, c'est Calogero, Si seulement je pouvais lui manquer.
Une heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Alors évidemment on connaissait les lunettes avec monture en bois, on en a déjà parlé dans Une heure en France, mais on connaissait pas encore celle avec monture en pierre, en marbre ou encore en ardoise.
Ce sont deux opticiens de la marque Wave of Wood qui les ont...
Je savais que j'avais bien fait de vous laisser l'anglais.
Mais enfin, je l'ai bien dit en plus, Wood comme le bois, qui les ont mis au point depuis leur atelier à Chaumanré en Loire-Atlantique.
L'un des deux est avec nous, bonjour Antoine Gouviac.
Bonjour.
On a bien dit, hein, c'est Wave of Wood, donc les vibrations du bois. Vous êtes un adepte des matériaux naturels. Est-ce que les lunettes en bois, déjà, c'était difficile de convaincre la clientèle ou difficile à créer au départ?
Alors à créer, oui et non, parce qu'il a fallu apprendre. Nous, on est opticiens de formation, donc on a appris tout ce qui est création de vraiment de montures et notamment du bois. Mm-hmm. Convaincre après les opticiens, par rapport à l'époque actuelle, on est beaucoup sur des matériaux naturels. On revient beaucoup là-dessus. Donc de toute façon, on va dire que oui, c'était un petit peu difficile parce que il y a l'habitude des lunettes en plastique ou en métal. Tout ce qui est matériaux naturels, c'est un petit peu encore annexe, mais voilà, la réponse était positive très rapidement, donc c'est très bien.
Alors, des lunettes en pierre, je pense que nous sommes les premiers ici à vous poser la question, ce n'est pas un peu lourd à porter?
Non, alors en fait, savoir que c'est des montures qui sont donc en bois et pierre, il y a les deux matériaux, et savoir que sur nos montures en pierre, la plus lourde de la collection va faire aux alentours de 20 grammes. Et même si ça parle pas beaucoup comme ça tout de suite, 20 grammes,
non.
Faut s'imaginer que ça reste dans les mêmes poids, voire même un peu plus léger que si on faisait exactement la même en acétate, donc en D'accord. monture plastique.
D'accord. Et est-ce qu'elles sont plus fragiles ou pas du tout?
Non, il n'y a pas de différence. Tout ce qui est, c'est réalisé par plaquage. Nous, on fabrique tout à 100% dans notre atelier, en partant des feuilles de bois et des feuilles de pierre aussi. Tout est collé sur un principe de lamellé-collé, donc avec des fibres croisées, etc. Donc en termes de résistance, on est sur quelque chose de très bien, il n'y a pas de souci. La pierre apporte aussi un peu plus encore de résistance que le bois seul, on va dire, donc il n'y a aucun souci là-dessus.
Et quand vous parlez de feuilles de pierre, vous parlez déjà de quel genre de pierre?
Alors nous on utilise trois type de pierre, on va dire, on utilise de l'ardoise, du mica et du marbre. Et après, on utilise différents micas, différents marbres et différentes ardoises. Mais c'est des feuilles de ces trois familles de pierres, on va dire.
Ah pardon, on est embêtant, mais du coup, c'est quoi une feuille de pierre? C'est quand vous avez taillé la pierre au départ, donc vous gardez un millimètre d'épaisseur pour faire les lunettes?
Ouais. En gros, c'est un peu ça sur le principe. Si on schématise, nous, on utilise de la pierre naturelle, donc c'est pas de la pierre reconstituée. C'est pas de la poudre de cette pierre-là qui aurait été recollée, etc., pour refaire. C'est vraiment la pierre comme elle est à l'origine. C'est-à-dire que on va prendre un bloc de pierre, donc par exemple un bloc de marbre, on va dire, qui est sorti d'une carrière, qu'on va venir recouvrir d'une résine, qu'on va laisser sécher et qu'on va arracher, ce qui fait que ça va arracher juste la feuille, enfin une feuille très fine de pierre, une feuille qui va se faire de 6 dixièmes de millimètre à peu près. Et du coup, voilà, ça se manipule exactement sur le même principe qu'une feuille de bois, parce qu'on arrive du coup à obtenir de la matière naturelle mais très fine, donc qui garde une souplesse quand même. Même si c'est de la pierre, ça reste très souple. Au point de pouvoir carrément, on a fait même des boîtiers avec, quoi.
Oui. Disons qu'il y a un peu de travail. On va pas aller chez le marchand en disant, donnez-moi trois feuilles de pierre.
Il y a un petit peu de travail pour réaliser les feuilles et pour faire après, ouais. Même pour réaliser de toute façon les montures. Nous, faut compter à peu près en termes de travail au complet, hein, c'est-à-dire en comptant aussi les temps de collage, etc. Mais faut compter à peu près 2 jours pour réaliser une monture. Donc dans tous les cas, si on nous demande aujourd'hui une monture, on ne pourra pas l'envoyer dans 1 heure. C'est pas quelque chose qu'on fait juste de la découpe et de l'envoi. On fait vraiment toutes les étapes de A à Z et du coup, oui, un petit peu de travail. Ouais.
Et Antoine Gouviac, du coup, à l'usage, est-ce qu'elles sont confortables? Est-ce qu'elles sont agréables à porter et pourquoi?
Comme on disait tout à l'heure, oui, elles sont agréables à porter parce que du coup, elles restent très légères.
Oui.
Elles ont toutes les qualités techniques, on va dire, d'une monture. Quand nous, on est, comme je disais tout à l'heure, on est opticien, donc on ne s'est pas uniquement basé sur du design. On a réfléchi aussi à tout ce qui était côté confort, justement, au niveau du nez, que ce soit au niveau du poids, toujours pareil, niveau des branches, des longueurs de branches, etc. Donc tout est travaillé pour que le confort soit optimal pour le client, pour tous les clients, parce qu'on a différentes longueurs de branches, on a différentes tailles de nez aussi, etc. Et du coup, en termes de poids, vu qu'on est, je vous dis, quasi plus léger que de l'acétate.
D'accord. Donc c'est le plus léger qui amène ce confort.
D'accord. Bon, au risque de m'attirer les sarcasmes de ma collègue Frédéric Le Tournier, votre société s'appelle Wave of Wood. Vous allez la transformer en Wave of Stone pour les pierres?
Non, on garde. Parce que la société était. Nous, on a créé ça parce que c'était notre collection principale qui existe toujours, hein, d'ailleurs, hein, de toute façon, Wave of Wood, qui était notre collection de montures en bois. C'était la collection principale et on a hésité à faire un deuxième nom à part vraiment. Et du coup, en fait, non, c'est une collection capsule qui s'appelle la collection minérale, qui est toujours dans la collection Wave of Food quand même.
Dernière chose, Antoine Gouviac, on se doute bien que ça a un coût avec tout ce travail. On peut avoir une paire de lunettes en pierre pour quel tarif?
Les montures optiques, ça va osciller entre 300 et 400 euros suivant les pierres. En fait, justement, on part sur un marbre, évidemment, ce sera un petit peu plus cher. Mmh. Sur les ardoises, ce sera un petit peu moins cher. Voilà, ça va osciller dans ces eaux-là.
Très bien, mais écoutez, on est bien renseignés sur vos lunettes. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui.
Merci à vous.
Elle s'appelle comment, sa société?
Wave of Food.
Eh bien, on dit la même chose.
Oui, c'est ça. Exactement la même chose. Allez, on joue, nous, pour une station météo France Bleu. Elle est magnifique, elle est là, elle vous attend. Comment appelle-t-on des lunettes sans branches qui se fixent au nez, à votre avis? C'est vieux, hein, comme terme. Aujourd'hui, elles ont toutes des branches, normalement. Ce sont voilà. Vous nous appelez 0810 055 056. Je répète ma question. Comment appelle-t-on des lunettes sans branches qui se fixent au nez?
Elles n'étaient pas en pierre à l'époque.
Non, pas du tout. Mais mettez les lunettes de soleil maintenant parce que ce sont les Beatles qui arrivent. Here come the sun, il est là. Eh oui, le soleil. Un peu partout en France aujourd'hui. Excepté au nord de la Seine. Et puis sinon, il va faire chaud jusqu'au week-end prochain. Donc si vous pouvez en profiter, ça va monter. On ira jusqu'à 30 ce samedi. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. We'll be right back. Et notre réalisateur qui sait tout, il faut bien le dire, qui s'appelle Christian, nous disait que c'est George Harrison qui a composé ce titre et même qu'on entend chanter, c'est sa voix. Here Comes the Sun, c'était les Beatles. Céline est là, bonjour Céline.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes en Haute-Garonne, Céline.
C'est ça.
Donc vous avez beau et chaud normalement aujourd'hui.
Ah oui, très très chaud. Hein.
Vous êtes en voiture là, non?
Oui.
Ah, ça s'entend. Vous êtes en Bluetooth ou vous êtes garé?
Ah oui, je suis garée, oui.
Ah, bon, tout va bien.
Je vais sortir de la voiture, si c'est mieux. Hein.
Vous allez où comme ça?
Là, je vais sur Toulouse et sur Tournefeuille.
Chercher une feuille?
Non, à Tournefeuille, non, à côté de Toulouse. Frédéric, ah, vous comprenez bien l'anglais, mais vous comprenez pas le français.
Une fois sur deux. Donc, à Tournefeuille, et vous n'allez pas du tout chercher une feuille. Vous allez chercher quoi, Céline, à Tournefeuille?
Je vais chercher des enfants.
Ah, c'est bien aussi. Bon, Céline, je vais vous poser ma question avant que ça devienne un dialogue complètement bizarre. Alors, comment appelle-t-on des lunettes sans branches qui se fixent au nez, Céline?
Des
bésicles. Des bésicles, mais oui, c'est la bonne réponse. Une station météo France Bleu pour vous qu'on vous envoie. Hein.
Merci beaucoup.
De rien, mais on vous laisse repartir et rouler en musique. J'espère que vous aimez M. Pokora.
Oui, j'aime beaucoup.
Eh ben, il arrive avec son dernier titre.
Bonne journée. À Tournefeuille, Céline.
À bientôt. Merci. Bonne route, Céline. Au revoir. Et tant mieux, parce que comme Céline, je pense que vous êtes nombreux à beaucoup l'aimer. M. Pokora, il nous a un petit peu manqué. Ça y est, il revient, il est déjà sur France Bleu. C'est son dernier titre, ça s'appelle Les Planètes.
Seul dans mon monde, 4h du mat, loin des phares, 207 chambres d'hôtel, je t'appelle mais tu décroches pas. Seul sur la route, entre mes rêves et mes doutes, au milieu de la piste de danse, dernier verre et je pense à toi. Un shot, je pense à toi. Deux shots, je pense à toi. Trois shots, je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, les planètes tournent tout autour. Pardonne-moi l'indifférence, je reviendrai au lieu. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Une nuit de plus, solitude dans le tourbus. Aucune muse ne m'amuse. Je t'appelle mais tu décroches pas. Un shot je pense à toi. Deux shots je pense à toi. Trois shots je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, les planètes tournent tout autour. Pardon. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie?
C'est son dernier titre, vous avez reconnu sa voix évidemment, M. Pokora avec Les Planètes sur France Bleu.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
On a parlé récemment des légumineuses avec les recettes durables du chef étoilé qui collabore avec le Fonds mondial pour la nature, WWF. Eh bien voici un légume sec de saison, le haricot coco, le coco de Paimpol cultivé en Bretagne depuis le XVIIIe siècle.
On a déniché des recettes avec des cocos dans le dernier numéro de Cuisine et Vins de France, la purée de coco à l'ail et au safran et puis les cocos de Paimpol avec une compotée de tomates.
Le président du syndicat de défense du coco de Paimpol et producteur lui-même pour Prince de Bretagne est avec nous. Bonjour Gérard Lemeur.
Bonjour.
Le coco c'est comme la tomate, on est d'accord, avant la Bretagne, il vient d'Amérique du Sud au départ.
Oui, oui. Et coco est arrivé dans les années 1928 environ à Paimpol, dans la région de Paimpol. Hein. Et dans les premières années, en fait, il n'était cultivé que dans les jardins. C'est juste après la guerre 45, en fait, qu'il a commencé à s'exporter, en fait, de la région de Paimpol, hein, pour être vendu dans les villes bretonnes en premier. Et par la suite, toutes les régions de France ont été conquises hein, par ce fameux légume.
Est-ce que c'est un légume, on le dit, fragile, vraiment ?
Oui, il est très fragile puisque c'est un des légumes encore qui fait partie des légumes récoltés à la main. En fait, c'est vraiment de l'artisanat, hein, la récolte du coco de Paimpol qui couvre environ 780 hectares pour 200 producteurs. Mmh. Et toute cette production est encore récoltée aujourd'hui à la main.
Gousse par gousse.
Le plumage.
Le plumage.
Ah, le ouais. Plumage, oui. C'est le même geste que plumer une poule. Quand vous enlevez les gousses sur la grappe.
Ah oui, d'accord. Mais c'est volontaire ou on ne peut pas faire autrement ?
On ne peut pas faire autrement.
D'accord.
De toute manière, pour garantir la qualité du produit, mécaniquement, ce n'est impossible. C'est impossible. La gousse du coco de Paimpol est dure à enlever en fait, de la grappe. Elle se décroche plus difficilement par rapport à un haricot vert qui se plume facilement. Mmh. Le coco de Paimpol, il faut vraiment tirer dessus. Quoi. Mmh.
Et est-ce que le coco de Paimpol se porte bien d'une manière générale avec ses producteurs, son circuit commercial ?
Oui, malgré la baisse de surface, hein, puisque il y a 3 ans que nous avons baissé en surface. Aujourd'hui, la surface, c'est autour de 780 hectares. Il y a 4-5 ans, on était plus autour de 1000-1200 hectares. Mmh. C'est un légume qui se professionnalise au niveau des producteurs, puisque le nombre de producteurs aussi, aujourd'hui nous sommes autour de 200 producteurs. Quoi.
Mais du coup, il est devenu plus à la mode le coco de Paimpol. Les grands chefs aiment le cuisiner, il revient sur les tables des restaurants. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, parce que autrefois, en fait, c'était un légume de base, hein, le coco, le ouais. Fameux faillot, comme on l'appelait dans le temps. C'était vraiment... Alors qu'aujourd'hui, vous le trouvez à la table des grands restaurateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau gustatif, le coco de Paimpol est complètement différent des haricots secs. Pourquoi on le récolte frais ? Puisque c'est un haricot frais, puisque quand on le récolte, il est à environ 50% de sa maturité, si vous voulez. C'est parce que quand vous le récoltez frais, le tégument, c'est l'enveloppe qui entoure le grain. Ce tégument-là, quand le haricot est frais, il est très fin. En fait, il fond sous votre palais, contrairement à un haricot sec, où le tégument il va être plus dur. Quoi.
Alors, on a lu ça avec Frédéric, vous allez me dire si vous cautionnez. Le coco de Paimpol est excellent en salade, mais il faut le laisser refroidir et le maintenir dans son eau de cuisson avant de le servir, sinon il se dessèche.
Oui, et quand vous le cuisez aussi, c'est pareil, à la cuisson, c'est environ 30 à 40 minutes. Et c'est un haricot aussi qui ne nécessite aucun trempage au préalable, bien
d'accord.
Sûr. Et la cuisson, il faut bien surveiller la fin de cuisson, puisque c'est pour que vous gardiez vos grains croquants et que le grain n'éclate pas, si vous voulez. C'est très très important, ça.
Gérard Lemeur, est-ce que vous en mangez régulièrement encore des cocos de Paimpol ? Et comment vous le cuisinez, vous ? Comment vous le préférez ?
Alors moi, bien sûr, je mange du coco de Paimpol régulièrement. Et Comment je le préfère? Moi, je le préfère, je vais vous dire, tout simplement nature. Parce que je trouve que quand vous le consommez nature, vous, tous les arômes ressortent du coco. Si vous le, si vous mettez des ingrédients, oignons ou la tomate, des choses comme ça, en fait, vous perdez le goût du coco. Et le vrai goût du coco de Paimpol, c'est nature qui est meilleur.
Ça m'a donné faim encore.
Je retire la compotée de tomate, moi, que j'avais mis avec le coco. Le coco de Paimpol, le haricot blanc cultivé en Bretagne. Les recettes sont dans Cuisine et Vin de France, le numéro de septembre-octobre, avec une belle tarte aux figues en couverture.
Merci beaucoup, Gérard Lemeur. Ça donne vraiment envie de le cuisiner, le coco de Paimpol, et de retrouver sa saveur. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie de vous intéresser à ce fameux produit.
Et vous en parlez très bien, on sent que vous l'aimez. Merci bonne
beaucoup.
Journée. À bientôt.
Merci.
Au revoir. Une heure en France se referme avec les Pretenders. Et ce si beau titre.
Got this in pocket. Got paddle. I'm gonna use it. Intention. Been diving, detour leaning, no visa, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep.
J'espère que vous êtes à peu près autant heureux que nous d'avoir réentendu ce titre aujourd'hui. C'était les Pretenders, Brass in Pocket. Une heure en France se referme. Denis, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ?
On a découvert que le timbre va perdurer. C'est l'historien de la Poste qui le dit, en tout cas, mais d'une façon plus littéraire. Bref, pour les histoires d'amour.
On a découvert aussi, grâce à deux opticiens en Loire-Atlantique, que les lunettes avec monture en pierre n'étaient pas forcément plus lourdes.
Et on n'a pas eu le temps de leur demander de parler de leur projet des montures en écailles de poisson. Peut-être qu'on les réinvitera un jour.
Ah ça, à mon avis, oui, on va entendre parler d'eux à nouveau. Et puis on a terminé avec le coco de Paimpol. Franchement, moi j'ai appris plein de choses.
Il faut le surveiller à la cuisson. Ensuite, c'est au choix hein, pour vous l'accommoder ou vous le manger nature.
Et puis on revient demain, Denis, à partir de 13h, si tout va bien.
Demain, c'est la journée sécurité routière sur France Bleu et France 3. On va mettre un airbag pour faire du vélo dans une heure en France.
Parfait, à demain.